Plante histoire de plantes sur CFM Radio, l'émission qui s'intéresse au jardinage écologique, à la permaculture, aux moyens aussi hein, de prendre soin de la biodiversité qui nous entoure pour qu'elle nous le rende au centuple. C'est en partenariat avec le Jardin des Merveilles de Vahour et c'est avec Rémi Kulik qui est en studio avec moi. Bonjour Rémi.
Bonjour, bonjour à tous.
Aujourd'hui on va faire appel à nos amis les animaux parce que dans la précédente chronique on a parlé du triangle de fertilité, hein, le triangle à partir duquel on doit trouver le meilleur équilibre pour avoir une fertilité, on va dire, optimale, idéale. En tout cas, c'est la matière organique qui est présente sur le terrain, la biodiversité aussi qui est présente sur ce terrain-là, et puis la structuration du sol. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire face aux limites de cette auto-fertilité, ou en tout cas l'agrémenter, l'augmenter. Eh bien, cela va passer notamment, Rémi, par des solutions d'élevage, mais tous les élevages sont bénéfiques, ça on peut le dire quand même.
Oui, la déjection d'un animal est nutritive de toute façon. Ouais. Comme j'ai dit la dernière fois, les déjections de tous les animaux, même au sein du sol, c'est les excréments de pas mal d'animaux qui vont nourrir ensuite les bactéries, qui vont nourrir ensuite les plantes. Donc la déjection animale, par définition, est un élément nutritif.
Donc on va passer déjà rapidement sur ce que tout le monde devrait connaître, hein, un apport en fumier, en croûte, hein, tout ça, ce sont des choses à faire, mais pas à n'importe quel moment non plus.
Bah, pas à n'importe quel moment et pas à n'importe quelle quantité non plus. Je dirais qu'il faut le faire plus ou moins au moment où le sol ou les plantes en tout cas en ont besoin. Pas forcément le sol, mais les plantes. Du coup, on va pas forcément apporter de fumier ou de choses trop nutritives en automne, en hiver, au moment où les plantes sont plutôt en train de rentrer en dormance. Puisque si on nourrit trop un sol pendant l'hiver, l'hiver c'est le moment où, alors cette année c'est pas valable, mais où normalement il pleut pendant l'hiver. Cette année, il n'y a pas beaucoup plus d'hiver. Mais si on a un sol qui est nourri, qui a de la matière organique et qui risque d'y avoir pas mal d'azote, et qu'en plus il pleut par-dessus et qu'il n'y a pas de plantes pour récupérer cet azote, ben on a ce qu'on appelle du lessivage et on a cet azote qui descend et qui peut aller jusqu'au nappe phréatique et devenir un polluant. Donc, c'est pas en mettant un tout petit peu de compost ou de fumier dans son jardin qu'on va être un gros pollueur, mais même si c'est un petit peu le cas, c'est surtout que c'est une perte d'éléments nutritifs, donc c'est dommage. Donc ça, on va le mettre plutôt au printemps, au milieu, fin de printemps, quand les plantes sont déjà un peu développées, ou alors en été, quand les plantes commencent à produire pas mal de fruits et quand, à cette période-là, elles ont besoin d'être bien nourries.
Alors, tu disais pas n'importe quelle quantité d'apport en fumier. Souvent, on dit qu'il faut le composter, hein, pas de fumier frais, de toute façon.
C'est mieux, ouais, si c'est un petit peu composté, ça sera plus facilement assimilable et il y a moins de risque de lessivage, moins de risque de perte. Mais surtout, il ne faut pas en mettre trop non plus. Après, certaines plantes vont apprécier un apport de fumier, mais c'est surtout la vie du sol qui va consommer, qui va digérer tout ça et pour le redonner aux plantes derrière. Mais en tout cas, voilà, faut pas en mettre trop, puisque ben, certaines plantes, si elles sont trop nourries, on risque de les cramer, comme on dit un petit peu.
Américaines, quoi, elles sont obèses et puis il y a des problèmes cardiovasculaires. Alors,
ça, je dirais, dans le meilleur des cas, oui, elles vont devenir obèses. Mais dans le pire des cas, il y en aura tellement qu'elles vont faire une overdose. Donc là, c'est moins intéressant.
C'est moins intéressant.
Après, devenir obèses, dans le sens où elles vont être très, très vertes, très, très grasses, à faire beaucoup de feuillage, c'est pas forcément intéressant pour tout. Certaines plantes sur lesquelles on va récolter du feuillage, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je me rappelle comment j'ai découvert un peu ce phénomène-là. Il y a une année où j'ai fait quelques courges et je sais plus trop ce que c'était comme plante, mais voilà, dans un peu de compost, il y avait un peu de fumier en surface et ça a été des plantes qui ont bien poussé. Donc je me suis dit, c'est génial, l'année prochaine je vais faire ça, mais x10. Donc j'ai fait une couche de compost, une couche de fumier, une autre couche de compost par-dessus, un gros paillage en surface. Et puis quelques semaines après, on a planté nos courges là-dedans et je sais plus qu'est-ce que j'ai mis comme plante, pas mal de choses. On a eu des courges avec des feuilles immenses, je me rappelle des hippomées qui grimpaient avec des feuilles énormes, bien bien vertes, et on s'est dit, waouh, quand ça va faire du fruit, mais là ça va être très productif. Et bien on a été déçus parce que ça a quasiment pas fait de fruit. Trop nutritif, trop d'azote. L'azote, ça fait du feuillage. C'est plutôt le phosphore, la potasse qui va faire les fruits derrière. Alors je schématise un petit peu, hein. Mais en tout cas, l'azote va surtout aider à faire du feuillage. Donc un sol trop riche en azote, ben ça va faire des plantes qui vont faire beaucoup de feuillage, mais pas forcément beaucoup de fruits derrière. Donc, pas trop, et équilibré aussi, c'est pas mal.
Et pas n'importe quand aussi. Et là, pour le coup, je dois dire que de dire qu'on n'apporte pas le fumier en automne, en hiver, là, pour moi, ça ferme une porte qui était pourtant grandement ouverte depuis très longtemps. On m'a toujours dit, mais tiens, c'est en automne, lorsque ton sol, il est tranquille, ou en tout cas ton potager, il est tranquille, tu mets une couche de fumier, et même par-dessus, tu mets un paillage pour le laisser comme ça, tranquille, assimiler le sol. Et toi, tu me dis que non, c'est pas forcément une théorie que tu valides, toi?
Ben, il y a un risque de perte par lessivage. Moi, en tout cas, c'est ce que dont je me suis aperçu dans mon sol. L'hiver, encore une fois, avec ces plantes bio-indicatrices, c'est ce qui poussait au printemps, indiquait clairement qu'il y avait un lessivage, qu'il y avait des pertes d'éléments nutritifs. Donc, c'est pas le meilleur moment. Le risque, c'est surtout que l'azote, il va pas rester fixé dans le sol, il va descendre en profondeur s'il y a de l'eau. Et s'il descend en profondeur, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de plantes pour les récupérer. Et l'hiver, c'est clairement ça qui se passe. Les plantes ne sont plus en croissance et c'est le moment où il y a de la pluie. Par contre, on pourrait se dire, là, moi, je prévois sur une zone d'y faire des plantes gourmandes au printemps, donc je vais faire un gros apport de fumier, on va le laisser composter pendant l'hiver et au printemps, ça va pousser dedans. Par contre, on y met une bâche dessus pour pas qu'il y ait de pluie dedans qui va lessiver cet azote. Si on met une bâche par-dessus, ben, l'azote va rester plus ou moins là où on l'aura mis. Et au printemps, on enlève la bâche. Pendant tout l'hiver, ce fumier s'est transformé en compost. Et là, c'est idéal pour cultiver dedans. Mais il faut juste pas risquer qu'il y ait trop de pluie dedans. Par contre, si on veut faire ça dans toutes les zones du potager, on va vouloir cultiver, il y aura des bâches partout. Par contre, si on fait un gros tas de fumier, on met une bâche dessus pendant l'hiver. Et au printemps, on enlève la bâche. C'est devenu un plus petit tas de compost. Ça a perdu en volume. Et ce compost, on va le répartir sur les zones de culture. Et là, il suffit de mettre juste une bâche sur le tas de fumier. Ça suffit.
Alors parlons maintenant de l'introduction des animaux pour nous permettre d'avoir un jardin joli, productif. Dans ton bouquin, tu parles notamment, en tout cas tu axes pas mal de choses sur l'introduction d'une basse-cour, donc avoir notamment des poules, des canards, des oies, si on a la place et si on a la possibilité aussi d'en avoir, si on n'a pas un voisin parisien qui va se plaindre du caquettement des poules, ça c'est possible. Mais tu dis aussi qu'il faut faire attention à plusieurs choses. À quoi par exemple pour introduire une basse-cour?
Alors, bah, plusieurs choses. Le premier truc qui me vient, c'est la prédation. C'est les poules, la nuit, quand ça dort, c'est très très calme, ça n'a pas la capacité de s'échapper. On va se les faire manger par les renards, les fouines, tous les prédateurs qui peuvent venir la nuit. La journée, il y a des buses qui vont pouvoir manger des petits aussi, ils vont faire attention à ça. Mais après, au-delà de ça, à part le souci de se les faire manger, il n'y a pas trop de risques. Encore une fois, ça dépend comment on l'intègre, selon où on les met. Une poule, ça peut venir gratter les semis, tout ça. Oui. Donc, il y a plein de façons d'intégrer le poulailler. Enfin, je dis poulailler, mais ça peut être comme tu dis, basse-cour. Moi, dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai pratiqué, il y a eu effectivement poule, canard et oie. Et chaque animal va avoir différents intérêts, différents impacts sur l'écosystème. Donc voilà, selon ce qu'on veut en tirer comme avantage, on va avoir différentes façons de les intégrer.
Bah déjà pour leur fiente, on m'a toujours dit que c'est l'un des meilleurs fumiers.
Alors tous les oiseaux, en fait, ça a une particularité, l'oiseau, c'est que ça, c'est monotrème, ça veut dire ça a juste un orifice qui va extraire les matières fécales et les urines. Donc les matières fécales, il y a de l'urine dedans, en gros, c'est mélangé. L'urine, c'est l'azote, donc c'est très très riche en azote, très nutritif. Donc ouais, déjection de poules, d'oies et de canards. Alors moi, c'est surtout les poules, parce que les poules, la nuit, elles dorment dans leur poulailler. Et c'est, moi, l'endroit où elles dorment, c'est un endroit surélevé où je peux juste passer une brouette en dessous pour aller gratter un peu les déjections. Et ça, soit je vais les balancer directement l'été dans les zones très gourmandes, les zones potagères, tomates, les courges et compagnie. Soit je vais mettre ça dans le compost. Et ensuite, quand je mets mon compost, j'ai un compost qui est très très riche. Du coup, j'ai pas besoin d'en mettre autant. Donc, juste un peu de compost avec les déjections de ma basse-cour dedans. Et ça me suffit pour tout mon potager.
Quel autre intérêt dans un jardin forêt avoir comme ça une basse-cour ou dès l'élevage? Parce qu'on parle là de la basse-cour, mais on n'a pas abordé non plus d'avoir des moutons éventuellement, des choses comme ça. C'est quoi l'autre intérêt que toi tu associerais à l'élevage et le jardinage?
Bah alors, si tu parles de moutons, là, l'intérêt, donc moutons, chèvres, ça va être des débroussailleurs, des tondeuses. Donc ça, voilà, j'ai pas trop pratiqué. Juste faire attention aux arbres pour le coup. À la limite, si on veut un jour faire une zone potagère ou un jardin forêt, un endroit où il y a des ronces, où il y a des pruneliers ou n'importe quelle plante difficile, sur lequel c'est difficile de s'en débarrasser, mettez-y des chèvres et en quelques semaines après, c'est sûr que c'est nettoyé. Donc ça va être un des gros intérêts. Le côté tondeuse, moi j'ai des oies, pour le coup, enfin j'en ai plus en ce moment, mais les oies c'est des brouteurs. Aussi. Et là pour le coup, les oies ne vont pas manger les arbres, ne vont pas manger les écorces et les bourgeons. peut-être certains feuillages, mais voilà, par contre, ça mange de l'herbe, ça broute de l'herbe.
Ah, mais ça, je ne savais pas.
Ouais, ouais, c'est intéressant pour ça. Les oies, les canards aussi. Les canards, l'intérêt, ça va être plutôt manger les. Alors, je pense aux canards coureurs indiens en particulier qui mangent les limaces, et c'est vraiment des têtes chercheuses à limaces. C'est vraiment super intéressant et agréable à regarder. Tu les vois avec leur bec aller farfouiller dans les paillages sous les plantes. Ça peut, voilà, ça peut manger des limaces. Il y a même, alors, je ne sais plus si c'est un pays asiatique, où il y a des gens, leur métier, c'est ça. Ils ont des énormes élevages de canards et ils vont les mettre à disposition des agriculteurs, ils vont les faire passer dans les rizières ou dans d'autres types de cultures pendant quelques jours. Et là, tu peux être sûr que cette zone, elle est débarrassée limaces, des surplus de limaces. Donc, je disais, il y a plusieurs façons d'intégrer ça au jardin. En intégration libre, totale, où elles peuvent aller partout dans le jardin, elles vont régulièrement aller réguler les pullulations. S'il y a un endroit où il y a une pullulation de limaces, c'est sûr qu'il n'y aura pas de pullulation. Après, les avoir en intégration libre, totale, eh ben, les poules, elles vont gratter un petit peu partout. On oublie le paillage, hein. Si on a une zone paillée, la poule, c'est là-bas qu'elle va aller gratter en premier parce que, ben, sous le paillage, il y a des insectes, il y a à manger. Par contre, on peut les avoir soit dans un parcours complètement isolé à côté, on va récupérer les déjections et ça sert juste à ça, soit un parcours isolé qu'on peut ouvrir de temps en temps. Pour certaines périodes, au printemps, il y a des limaces, eh ben, on va ouvrir la basse-cour, on va laisser les canards aller manger quelques limaces. Ça peut être intéressant. On a un endroit où on a envie d'aller faire un semis. Eh ben, avant le semis, on va y envoyer les poules. Elles vont bien gratter, elles vont enlever toutes les herbes qui pourraient rester. Le sol va être quasiment à nu derrière et il restera plus qu'à faire le semis. Bon, par contre, après, on supprime les poules. Enfin, on les renvoie dans leur coin. Non, il y a plein de façons et du coup, plein de façons de les intégrer. Donc, chaque façon va avoir différents intérêts.
Alors, ça, c'est des méthodes aussi pour augmenter donc l'auto-fertilité, hein, que ce soit par les déjections de ces animaux-là qu'on élève, ou alors, hein, c'est finalement un peu des compagnons, hein, pour le jardinage, hein, parce que si elle mange une partie des limaces, c'est déjà une aide formidable. Même si toi, tu es un ami des limaces quand même, tu défends les limaces, mm-hmm. Et tu n'es pas peut-être pour que les poules ou les oies mangent toutes les limaces présentes sur un terrain.
Ouais, je suis un ami de la limace, juste, j'aime pas les surplus. C'est en permaculture, on dit les surplus, il faut les partager, il faut pas garder ces surplus. Ben, le surplus de limaces, ça s'appelle, ou comme le puceron ou n'importe quel insecte qu'on dit ravageur, j'aime pas ce mot non plus, mais un surplus, ça s'appelle une pullulation. Et ce que j'aime pas, c'est la pullulation. Et même si j'adore les limaces, hein, mais dès que ça pullule, ça devient gênant. Par contre, voilà, grâce à l'élevage, grâce aux canards coureurs indiens et même à d'autres, hein, ben, ça va éviter les pullulations, parce que je pense pas que ça soit possible sur un écosystème qu'elles mangent toutes les limaces. Il va forcément en rester un petit peu. Si elles arrivent à un moment à tout manger dans notre jardin, c'est que là, on a une pullulation de canards. Pour le coup, il faudrait peut-être en supprimer quelques-uns.
Pour finir, dernière question, parce que là, on arrive clairement sur la période estivale, la période où aussi il y a beaucoup de choses à faire dans son potager. Des plants sont déjà très bien en place. C'est le moment aussi où on commence à se projeter sur les fameux fruits qu'on va avoir, sans vouloir être dans la dépêche avec la plus grosse tomate tarnaise. On parlait des fumiers, de l'apport en fumier qui ne pouvait pas se faire tout le temps. Là, par contre, tu me dis que même actuellement, là, on peut prendre une petite poignée de fumier, mettre au pied d'une tomate ou de melon, de pastèque. Mm-hmm. Ça, c'est possible de le faire.
Oui, une poignée, même un seau sur un mètre carré. Allez, un petit seau sur un mètre carré, c'est faisable. Faut juste pas en mettre trop, en fait. C'est ça. Faut voir. Qu'est-ce que ça va apporter, quel type de... Si c'est un fumier frais dans lequel il risque d'y avoir des urines, dès que c'est trop rapidement assimilable, on parlait de purène de plante, on parlait aussi de récupérer sa propre urine, dès que c'est trop rapidement assimilable, là, il faut pas en mettre trop. Par contre, mettre une poignée de fumier, et moi, j'aime bien dire de fumier un peu composté, pas de fumier tout frais dans lequel il reste des urines, dès que c'est un petit peu composté, oui, on peut en mettre en surface autant qu'on... Enfin, presque autant qu'on veut. S'il est bien composté, presque autant qu'on veut.
Tout est une question de mesure, mesdames et messieurs. C'était Plante, histoire de plante sur CFM Radio. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, où vous avez le loisir d'écouter des années de chroniques qui vous intéressent à la permaculture, au jardinage écologique et aux plantes aussi. Parce que oui, parfois il nous arrive de parler clairement d'une plante, quelle qu'elle soit d'ailleurs, d'ici ou d'ailleurs, pour vous en compter les bienfaits, les utilisations potentielles. Et ça se fait grâce au savoir accumulé au fil des années par Rémi Kulik, jardinier permaculteur. C'est au Jardin des Merveilles et c'est à Vaour, lieu dit Albartas. Salut Rémi.
Salut, à bientôt.